en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Aujourd'hui, Elisabeth Antebi reçoit pour son habit vert Bernard Despagna, qui est donc académicien de l'Académie des sciences morales et politiques.
C'est bien ça.
Oui, alors ça, nous allons en reparler, parce que vous vous occupez pas mal de morale, sinon de politique au sens large du mot.
Oui, enfin, je suis dans la section de philosophie. La section de philosophie est le seul endroit d'institut où, officiellement, si vous voulez, il soit question de philosophie. Et comme je m'intéresse beaucoup à la philosophie, nous allons en parler, c'est assez normal que je sois dans cette section-là et donc dans cette académie-là.
Oui, donc nous allons en effet reparler de la philosophie et de, on peut le dire tout de suite, et de ce que vous entendez par philosophie. Parce que, à vous lire, puisque j'ai lu là le dernier livre paru, mais il y en a bien d'autres, on en reparlera aussi, qui est Candide, qui n'est pas Candide de Voltaire, oui, mais qui est Candide et le physicien que vous publiez chez Fayard,
oui,
avec Claude Salicetti d'ailleurs, puisque c'est un livre d'entretien. Alors, à lire ce Candide et puis quelques autres auparavant, vous parlez de ce qu'on appelle au fond l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie plutôt des sciences, ou pas?
Oui. Parfaitement. Enfin, je considère que c'est une branche de la philosophie et même de la grande philosophie parce que ça nous rattache à Descartes, à Kant, à Berkeley.
Oui, Berkeley d'ailleurs, parce que j'ai pensé en vous lisant souvent au ciseau d'Occam. Vous savez l'histoire, oui, de Guillaume d'Occam, quand on ne peut pas penser quelque chose.
Le rasoir d'Occam.
Le rasoir d'Occam, oui, on traduit ça aussi par le rasoir d'Occam. Expliquez ce que c'est d'ailleurs pour l'auditeur qui ne sait pas nécessairement.
Le rasoir d'Occam, c'est essentiellement qu'il faut tâcher de supprimer de son discours tout ce qui ne relève pas du sujet.
Il ne peut pas se démontrer au fond, ou ne laisse pas prise au raisonnement.
Si vous voulez, si quelqu'un, dans le courant de son discours, invoque ou fait allusion à quelque chose qu'il croit éclairer son exposé, mais qui en fait est hors sujet, eh bien il faut le supprimer.
Il prend, je crois, l'exemple d'ailleurs de la croyance, la démonstration que Dieu existe ou pas. Il me semble qu'il prend des exemples de ce genre, non ?
Oh, c'est possible, oui.
Oui. Est-ce que vous vous sentez proche de ce courant ? Alors, pas vraiment de Guillaume d'Occam, mais par exemple de Popper, on pense aussi à Popper en vous lisant, et aux anglo-saxons, plus qu'aux allemands ou aux français.
Je m'intéresse beaucoup à Popper, oui. Je l'ai rencontré d'ailleurs.
Ah bon ? Oui.
Il s'intéressait à la mécanique quantique. À mon avis, et à l'avis de la plupart des physiciens, ils n'avaient pas vraiment compris le problème que pose la mécanique quantique. Mais enfin, il y avait le mérite assez rare chez un philosophe, de s'intéresser à ce genre de choses. Il avait réalisé qu'il y avait là des problèmes philosophiques fondamentaux posés par cette nouvelle théorie. Et il y a réfléchi, et ça, bien entendu, pour quelqu'un comme moi, c'est extrêmement sympathique. Maintenant, cela dit, parmi les grands philosophes, je m'intéresse pas spécialement aux anglo-saxons. Je viens de citer Kant, n'est-ce pas ? Je pourrais en citer d'autres. Mais c'est vrai qu'actuellement, chez les anglo-saxons, il y a un intérêt plus grand que chez nous pour ce genre de problème qui m'intéresse moi.
Alors, on va revenir au genre de problème qui vous intéresse vous. Et ça, c'est un de vos parcours, puisqu'on peut faire le portrait de quelqu'un à travers sa vie, son enfance, etc., ce qu'on ne manquera pas de faire. Mais il est intéressant de reprendre les titres de vos livres. Parce qu'avant Candide et le physicien, vous aviez publié, je rappelle ça aux auditeurs, ça commençait par Un atome de sagesse. En 1982, donc là, on parlait déjà de sagesse, de la philosophie. Puis, il y a eu, alors là, vous montriez le bout de l'oreille, Une incertaine réalité. Puis il y a eu penser la science à la recherche du réel. À la recherche du réel, là commence aussi le regard sur la matière, le réel voilé, qui est l'un de vos grands titres au fond et de vos grands mots même. Ça, vous nous l'expliquerez un petit peu. Vous l'avez déjà fait, mais peut-être c'est intéressant d'y revenir. Les trois gros volumes des implications philosophiques de la science contemporaine et le traité de physique et de philosophie, qui était en 2002, donc c'était relativement récent. Alors, que restait-il encore à approfondir sur ce réel incertain, voilé, qui vous turlupine tant? Parce qu'au fond, c'est la grande affaire de votre vie de physicien et de philosophe des sciences.
Oui, exactement.
Alors, c'est allons vrai. Au cœur du problème. Qu'est-ce que le réel voilé?
Alors, je dirais que, pour répondre à votre question, que reste-t-il? Le livre dont nous parlons là, Candide et le physicien, a cette particularité que c'est une réponse à des questions. Et à des questions qui ont été posées par quelqu'un qui est philosophe, mais qui n'est pas du tout physicien. Et je trouve que c'est un grand avantage, d'une certaine manière, parce que le physicien, ou le scientifique, le biologiste, a tendance à développer les idées ou les problèmes auxquels il pense, n'est-ce pas? Et quelquefois, ce ne sont pas des problèmes auxquels les gens de l'extérieur pensent. Et donc, il est bon d'être sollicité, d'être poussé par quelqu'un qui n'est pas du métier du tout.
Il est quand même médecin, hein?
Oui, oui, mais enfin, c'est très loin
un
de la
un peu scientifique, quand même. Oui, Candide ne l'était pas.
Oui, oui, c'est vrai. Oui. C'est donc, je trouve, un avantage d'être comme ça, poussé dans ses retranchements, si vous voulez, par quelqu'un qui a des idées claires, etc., mais qui n'est pas du métier, et qui donc, quelquefois, trouve des questions qui vont au cœur du problème et qui sont peut-être pas celles auxquelles le physicien professionnel aurait attaché a priori de l'importance.
Alors, est-ce qu'il y en a une plus spécialement qui vous vient à l'esprit, une ou deux, qui vous ont un peu surpris?
Oui.
Et qui vous ont permis, bien sûr, d'explorer.
C'est ça, oui, oui. J'ai été frappé, ça ne m'a pas vraiment étonné parce que je m'en doutais bien, mais j'ai été frappé par le fait que les gens du monde extérieur, les profanes, n'est-ce pas, ont a priori une vision de la réalité, une vision de la matière, des choses, des objets, qui est héritée, c'est un lointain héritage de Descartes, de ses idées claires et distinctes, mais qui, en fait, ne coïncide plus du tout avec l'enseignement, ce que nous révèle, ou ce que nous indique, ou ce que nous suggère la physique contemporaine. C'est ressorti très nettement dans certaines des premières questions que Saïssetti m'a posées.
Il faut dire que vous commencez sur les chapeaux de roue, si j'ose dire, hein, parce que vous nous plongez tout de suite dans la courbure de l'espace-temps. Je ne sais pas si on peut plonger dans une courbure, mais on apprend tout à trac que les planètes ne tournent pas autour du Soleil, mais que par la force de la gravitation, comme on le croyait depuis la pomme tombée sur la tête de Newton, mais qu'ils sont, je vous cite, « guidés dans leur trajectoire par une rigole de l'espace-temps due à la présence du Soleil ». Alors, au moment où on trouve d'ailleurs cette image belle et on s'interroge, vous précisez tout de suite en note qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre ou se faire une image de cette rigole, car le physicien relativiste ne sait pas du tout à quoi elle correspond, pas plus que nous, semble-t-il. Et que d'ailleurs, dites-vous, cette phrase énigmatique, « comprendre ne nécessite ici rien de pareil ». Voilà. Alors, nous voilà bien. Est-ce à dire que pour comprendre, il ne faut surtout pas chercher à comprendre?
Et non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut ne pas se cramponner aux idées claires et distinctes dont je viens de parler. Descartes a essayé de construire quelque chose de certain, une connaissance qui soit certaine. Il a tout de suite réalisé que les données des sens n'avaient rien de certain. parce que le bâton semi-immergé, il paraît brisé alors qu'il n'est pas, que les nuages le soir paraissent roses alors qu'ils ne sont pas, etc. Donc, de façon générale, on ne pouvait pas croire aux données des sens, ou du moins, on ne pouvait pas y croire a priori. Mais au moyen de son fameux raisonnement métaphysique, qui commence par le cogito et puis qui ensuite va de là à l'idée d'un Dieu non trompeur, qui nous a révélé donc des notions claires et distinctes, les notions de position dans l'espace, de forme des objets, de mouvement des objets. Et selon lui, donc, ces notions correspondent à la réalité telle qu'elle est véritablement et nous permettent d'accéder, nous permettront plus tard, n'est-ce pas, après beaucoup d'efforts sans doute, d'accéder vraiment à la description de la réalité telle qu'elle est, au moyen de ces notions claires et distinctes.
Galilée avait déjà dit « le monde s'écrit en langage mathématique, en lingua mathematica ». C'est un peu un héritage de Galilée. Oui.
Oui, sûrement. Mais il n'a pas découvert ce qu'Einstein a découvert ensuite, c'est-à-dire que les mathématiques étaient des matrices de concepts. Ça, il n'a pas découvert. Pour lui, les idées claires et distinctes, il y en avait trois, hein, celles que je viens de vous dire. Ensuite, Newton a rajouté la force. Mais bon, c'était avec ces idées-là, essentiellement, qu'on devait décrire le monde. Eh bien, nous sommes très attachés à ça, viscéralement, je dirais. Et les Français, encore plus que, beaucoup plus que les Anglo-Saxons ou les Allemands. Et malheureusement, il faut abandonner cette vision des choses, voyez.
Est-ce que c'est un abandon? Parce qu'à vous lire, est-ce que c'est un abandon ou un retour à mes chers Grecs? Puisque quand même, c'est Héraclite, c'est Démocrite, ce sont les présocratiques qui ont vu cela, qui ont pressenti cela, qui ne l'ont pas démontré. Mais la philosophie, l'étonnement, l'interrogation devant le cosmos, c'était les présocratiques.
Oui, assurément.
Et Pantareï, tout coule, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, etc. Est-ce que ça n'est pas une... Voilà.
Non, non. Moi, personnellement, je ne fais pas le lien. Je ferais plus le lien avec Platon et avec le mythe de la caverne. Parce que... Mais ça, j'anticipe peut-être, mais cette notion de réel voilé à laquelle je suis conduit rappelle à certains égards le mythe de la caverne, n'est-ce pas ? En ce sens que finalement, il apparaît que nous ne sommes pas armés, notre esprit, nos notions fondamentales ne sont pas telles qu'elles nous permettent d'accéder, de connaître, de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et nous voyons des ombres. Et nous voyons des ombres qui sont significatives. Ce n'est pas une invention à nous, mais ce n'est pas la réalité telle qu'elle est.
Alors, quelle est la réalité telle qu'elle est quand, dans la fameuse expérience de Schrödinger sur le chat, par exemple, vous savez, le chat qu'on enferme, je crois, avec une pincée d'uranium et puis quelque chose qui... une cellule photoélectrique, c'est ça,
enfin, oui,
je ne sais plus, oui.
Ça, oui,
bref, on l'enferme, alors l'uranium, normalement, s'écoule. Le chat est-il mort? Le chat n'est-il pas mort? Le chat est à la fois mort, mais il n'est pas mort, etc., etc. Il est peut-être dans un univers parallèle, disent les uns. Il est en même temps mort et pas mort. Bon. Donc, est-ce que, précisément, l'histoire de la caverne, on est dehors ou on est dedans? Le chat de Schrödinger pose un autre problème, finalement. Et Schrödinger, c'est la physique quantique, si je ne m'abuse. Hein. Je ne suis pas une experte en la matière, bien sûr.
Alors, le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant, symbolise, si vous voulez, très, très grossièrement, ce qui pourrait être la réalité ultime, c'est-à-dire quelque chose qui est, comme je le disais à l'instant, très loin de nos concepts. Mais nos concepts nous forcent à voir la réalité sous tel ou tel aspect. Et en particulier, ils nous forcent à voir la réalité de telle manière qu'un chat ne peut pas être à la fois mort ou vivant. C'est un peu de la même manière que les prisonniers sont obligés de voir des formes, n'est-ce pas, mais qui ne correspondent pas, qui reflètent d'une certaine manière, mais vagues, la réalité.
Alors, souvent, quand on vous demande, dans le livre, ça se ressent un petit peu, quand on vous demande des précisions, au fond, vous répondez « science ». Ça philosophe par là même, si je puis dire. Vous savez, Freud disait que la guérison vient de surcroît dans la psychanalyse. Alors, on pourrait dire un peu que la philosophie vient de surcroît quand vous expliquez une notion scientifique. Est-ce que ça se rattache à une... Par exemple, vous dites qu'une révolution de la pensée était la révolution copernicienne. Copernic est un savant, comme chacun sait. Oui. Donc, qu'entendez-vous par là? Chaque fois, le domaine des idées pure, si je puis dire, n'est pas votre réponse. Ou est-ce que je me trompe?
Je suis assez popérien à cet égard. Pour schématiser un peu ce que disait Popper, il disait que nous avons beaucoup d'idées pour décrire les choses. Nous imaginons que ça pourrait être comme ceci, ça pourrait être comme cela, ça pourrait être encore autrement. Et quand on lit les philosophes, on voit que les philosophes, au cours des âges, ont à peu près tout proposé. Comme disait déjà Cicéron, il n'y a pas une idée si étrange, si bizarre, si biscornue au monde. On ne peut pas inventer d'une idée suffisamment biscornue pour qu'il n'y ait pas quelque part, à un certain moment, un philosophe qui l'ait défendu. N'est-ce pas ? Alors, comment faire le tri ? Eh bien, Popper disait, il faut voir quelles sont les conséquences de chacune de ces idées et éliminer celles qui ont des conséquences contraires à ce que nous observons. Et donc pour ça, eh bien, il faut observer, il faut expérimenter et donc il faut faire de la science. Et par conséquent, je considère que la science est indispensable pour nous aider à faire ce fameux tri dont je parlais, n'est-ce pas ? Mais il nous conduit à... Le but final, c'est justement la philosophie, vous voyez. Donc
la question.
Oui.
La question scientifique renvoie à la question philosophique.
Oui, c'est ça. La question scientifique veut dire, pour moi, n'a d'intérêt profond que parce qu'elle renvoie à une question philosophique.
Alors Heidegger, comme vous le savez, qui a fait quand même L'être et le temps, qui est quand même une des œuvres phares, disons, de la philosophie du XXe siècle, parlait, lui, du projet mathématique de la nature, rappelait la phrase de Nietzsche sur la volonté de volonté qui allait être celle de l'homme de la science pure, et disait surtout, ce qui est devenu un slogan après les années 80, « la science ne peut pas penser la science ». Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes bicéphale ? Est-ce que vous-même, vous vous sentez bicéphale, c'est-à-dire physicien d'un côté, philosophe de l'autre, puisqu'il y a des scientifiques purs, si on peut dire, qui ne se sont jamais posés de... Ce que vous dites quelquefois, d'ailleurs. Donc, est-ce que vous êtes un être bicéphale ou est-ce qu'un philosophe doit nécessairement connaître la science ?
Bon, si j'étais prétentieux, je dirais que... Je voudrais plutôt être complet qu'être bicéphale. Mais, disons, bon, j'adopte votre terminologie. Oui, je suis bicéphale, c'est vrai.
Vous pouvez être Janus, si vous préférez. C'est plus joli.
Oui, au lycée, j'ai fait à la fois le bac de philosophie et le bac de sciences. À l'époque, c'était permis. Et j'ai choisi la science parce que je... réalisait que, qui m'a semblé en tout cas, que pour faire de la bonne philosophie, il fallait tenir compte des données scientifiques, et pas seulement des données scientifiques acquises du temps de Galilée et de Copernic, mais des données scientifiques actuelles. Je veux dire que la lecture d'un livre m'a beaucoup influencé dans ce foi. Ce livre, c'était « Matière et lumière » de Louis de Broglie.
Vous aviez quel âge quand vous l'avez lu ?
Oh, 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait étudier la physique actuelle, et que pour faire cela, il ne suffisait pas de lire des livres de vulgarisation concernant la physique, quelque intéressant que soient ces livres, comme Matière et Lumière par exemple, mais qu'il fallait en faire soi-même.
Et quand vous étiez petit, alors plus jeune que 18 ans, est-ce que vous faisiez des expériences dans la cuisine de maman qui vous passait Bergson, si j'ai bien compris? Et est-ce que vous étiez plutôt à faire des expériences ou est-ce que vous étiez un petit garçon qui lisait des bandes dessinées? On ne lisait pas beaucoup de bandes dessinées à l'époque, mais enfin des romans de KPDP.
Les deux. Des bandes dessinées, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu des choses qui, bon,
quoi donc,
rattachées à ça avec une nuance importante. Mais
dites-moi, parce que ce serait un scoop de savoir que vous lisiez Prince Vaillant ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lisiez comme bande dessinée?
Comme livre illustré, je lisais, et je me rappelle très bien, et je crois que j'ai encore à la campagne, un petit album écrit et illustré par un ami de mon père qui s'appelait Delo et qui parlait de la mythologie grecque.
Ah bon?
Et qui décrivait ça de façon très vivante, avec des images amusantes et très jolies. Je souligne, amusante et très jolie.
Oui, vous insistez beaucoup, souvent, sur l'esthétique. Et vous déplorez le manque d'esthétique de notre civilisation, si l'on peut dire. Il y a une beauté de la démonstration
oui.
scientifique et des lois mathématiques.
Oui, sûrement.
Dont
oui.
vous parlez finalement assez peu, là. Ce qui est étonnant, parce que vous devez y être sensible, évidemment.
Oui, bien entendu. Je dis, je crois, quelque part, que ce sont des indices de vérité. Mais que ce ne sont que des indices. Et un indice doit être pris avec un peu avec des pincettes, si vous voulez. C'est-à-dire que pensons que le cercle est quelque chose de simple, n'est-ce pas, donc de beau, et le cercle a fasciné toute l'Antiquité, jusqu'à Kepler, si vous voulez. C'est-à-dire vraiment très, très, très longtemps, plus de 1000 ans. Pendant plus de 1000 ans, les scientifiques se sont polarisés sur la beauté du cercle, et on déduisait que le cercle, c'était une expression de la vérité, donc les planètes devaient avoir des trajectoires circulaires, etc. Donc, il faut prendre ça très au sérieux. Je crois beaucoup à la beauté mathématique, mais je ne suis pas du tout porté à y voir l'expression d'une vérité suprême.
Alors, dans la cuisine, donc, est-ce que vous faisiez des expériences mathématiques? Excusez-moi, je vous ai coupé.
Alors, des mathématiques,
ou
pas beaucoup, mais physique, oui. Je me rappelle très bien avoir refait l'expérience d'Oersted avec une boussole, et vous savez en quoi ça consiste? Ça consiste en le fait que si on fait passer un courant électrique auprès d'un aimant, le courant électrique agit sur l'aimant. C'est une expérience très facile à faire. Je prenais une petite boussole, et comme on en achète au supermarché, si vous voulez, puis une pile électrique réunissait les deux bandes, et je constatais effectivement que la boussole bougeait. Ça, j'ai trouvé ça formidable.
Donc c'était les débuts d'un physicien, en effet. Bon. Vous dites à un moment donné que le débat, alors là pour revenir au débat lui-même de la science, qui pense la science, etc., vous dites que le débat de l'être, qui est donc le grand mot aussi de Heidegger, qui est dans l'autre camp, si on peut dire, vous dites que le débat de l'être renvoie au grand débat philosophique entre réalisme et idéalisme. Alors, est-ce que c'est pas un peu un paradoxe, et est-ce que le réalisme peut être une idée d'idéaliste ? Finalement, vous racontez ça à propos de la Lune. L'idéalisme consistant à créer par ses idées, si j'ai bien compris, il y avait un courant idéaliste au moment de la Révolution qui poussait très loin l'idéalisme, puisque vous étiez une invention de moi, et moi je suis une invention de vous. Nous sommes les seuls à nous penser, si je puis dire.
Oui, c'est le solipsisme, oui.
Oui, ça c'était vraiment le comble de l'idéalisme. Oui. Donc est-ce que la réalité n'est pas le comble de l'idéalisme, poussé à l'extrême? Est-ce que ce n'est pas une idée que vous avez de la réalité? Est-ce que c'est vraiment une opposition réalisme et idéalisme, au fond?
Oui, l'opposition consiste, le réaliste conventionnel, je dirais, dit qu'il existe des fausses. Il existe une réalité qui est tout à fait indépendante de nous, qui existerait telle qu'elle est, même si nous n'existions pas, et que nous pouvons connaître cette réalité. C'est le réalisme, rationalisme, si vous voulez, c'est l'identité des deux. L'idéaliste dit non, ça c'est la mauvaise métaphysique, nous ne pouvons pas accéder à la réalité ultime. Alors, les idéalistes se séparent en deux branches, si vous voulez. Il y a les idéalistes du type kantien qui disent « la chose en soi, la réalité ultime, existe, mais elle est pour nous absolument inconnaissable. »
C'est le noumen,
nous ne pouvons, c'est le noumen, mais il est inconnaissable, c'est la chose en soi, et nous pouvons seulement connaître les phénomènes, c'est-à-dire les apparences, la manière dont cette réalité nous apparaît. Et le réaliste, comme je le disais, dit au contraire que nous pouvons, après suffisamment d'efforts, naturellement, connaître la réalité telle qu'elle est. Donc, je vois vraiment une opposition entre ces deux conceptions.
Alors, j'ai relevé une phrase de Hedwig Born, qui a demandé un jour quelque chose moi, qui me ravit à Einstein. Hedwig Born a écrit, ayant un jour demandé à Einstein, « Croyez-vous qu'absolument tout peut-être exprimé scientifiquement. » Il me répondit « Oui, ce serait possible, mais ce serait insensé. Ce serait une description sans signification, comme si vous décriviez une symphonie de Beethoven comme une variation d'intensité sonore. » Est-ce que ça n'est pas un peu le danger aujourd'hui de cette explication scientifique que l'on brandit un peu, ce qui n'est pas votre cas, hein, mais dans le grand public, il y a un malentendu aussi, on explique tout, il y a une explicomanie scientifico.
Oui.
Alors, est-ce que vous ne voyez pas là un écueil?
Bien sûr. Bien sûr.
Voilà.
Oui, oui, bien sûr. Il y a l'idée, disons, du matérialisme courant et même du matérialisme élaboré, selon laquelle tout s'explique à partir de choses physiques, y compris les valeurs, et que par conséquent, ces valeurs sont quelque chose de très secondaire. Ce sont des apparences pour nous, des apparences, des illusions, si vous voulez, et que la vraie réalité, ce qui est vraiment sérieux, ce sont des atomes, des molécules, etc., et rien d'autre. Et il est certain que ceci est, finalement, si on prend ça vraiment au sérieux, quelque chose de très démoralisant.
Mais est-ce que ce n'est pas même approximatif? Parce qu'au fond, on construit des modélisations en permanence du monde.
Oui, je reste avec cette idée-là dont je viens de parler. C'était l'essence de la question qui a été posée à Einstein, n'est-ce pas? Et Einstein a répondu, oui, ce serait possible, mais effectivement, ce serait démoralisant, disons. Et lui pensait, effectivement, que ce serait possible, parce qu'il était essentiellement réaliste. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il était essentiellement réaliste qu'il n'a jamais pu accepter la mécanique quantique. Mais aujourd'hui, nous sommes bien obligés d'accepter la mécanique quantique.
Dieu ne joue pas au dé avec le monde, disait-il.
Disait-il, oui, c'est ça.
Vous pensez,
et donc,
vous,
la réponse d'Einstein me paraît moins satisfaisante que la réponse que nous pouvons donner maintenant. Parce que maintenant, je crois que nous pouvons dire non, vraiment, les choses ne se résument pas à toutes ces données que nous pouvons décrire par la physique.
C'est-à-dire que la symphonie de Beethoven ne peut pas se résumer à une variation d'intensité sonore.
Voilà, exactement. Oui,
oui. L'âme et la psyché ne sont pas le résultat des hormones et de l'adrénaline. On peut le dire aussi comme ça. Mais
d'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas une tentation du savant? Parce que, par exemple, dans d'autres domaines, vous parlez bien sûr de la physique. Vous parlez rarement de la biologie, puisque ça n'est pas votre domaine.
C'est pas mon domaine.
Mais dans la biologie, il y a eu énormément de bouleversements, puisqu'il y a le génie génétique, la recombinaison, etc.
Oui.
Et James Watson, qui est l'un des découvreurs de l'ADN, a dit un jour des quatre acides aminés qui constituent l'ADN, A, C, G, T, il a dit, avec ces quatre lettres, nous avons réécrit la Bible. Et, pour revenir aux physiciens, il y a une mosaïque qui représente à Copenhague Niels Bohr, vous le savez peut-être, en mosaïque sous les traits de Théodora de Byzance. Est-ce que Bien sûr, il y a de l'humour aussi là-dedans. Mais est-ce que ça n'est pas une tentation du siècle aujourd'hui de réduire le monde, pourrait-on dire, je ne sais pas si c'est le réduire, au savant? Est-ce que le savant n'a pas pris maintenant la place du philosophe d'antan, du philosophe présocratique?
Moi, il me semble que c'est tout le contraire. Si vous regardez la mentalité des gens cultivés, vous constaterez qu'ils sont beaucoup moins scientistes qu'ils n'étaient il y a encore 50 ans. Beaucoup moins. Il y a au contraire une grande défiance vis-à-vis de la science. Je pense que cette défiance est en partie motivée précisément à cause des excès du scientisme qui ont prétendu faire cette réduction dont nous parlions tout à l'heure, de réduire de toutes les valeurs de l'âme, etc., réduire tout ça finalement à des ensembles de petits objets qui interagissent les uns avec les autres. Je crois que c'est parce que c'est vrai qu'à un certain moment dans l'histoire de la science, ce que je viens de dire là a paru être la vérité. C'est le grand moment de la physique classique, du temps de Renan, du temps de Taine. Effectivement, ça paraissait être vrai, donc il fallait s'y résigner, qu'on l'aime ou pas, puisque ça paraissait découler des données factuelles de la science. Mais la science a beaucoup changé depuis, c'est ce que j'essaie de dire, et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, si vous voulez, c'est parce que ces personnes de l'extérieur ne sont pas au courant du développement de la science actuelle et de leur prolongement philosophique valable, et s'en sont restés au schéma mécanistique d'il y a un siècle, qu'elles s'éloignent de la science.
Est-ce que ce n'est pas parce que la philosophie n'a plus laissé parler les poètes, puisque vous aimez les poètes? Rappelez-vous que Heidegger, à certains moments, laisse parler Angelus Silesius, par exemple, fameux poète, et que beaucoup de philosophes ont fait parler les poètes, et que maintenant on n'appelle plus guère les poètes dans la démonstration. Est-ce que ça n'est pas une des raisons? Est-ce que ce n'est pas une scission terrible?
Oui. Écoutez, je me sens plus proche de Popper que de Heidegger, je dois dire.
Mais même Bergson le disait, même Bachelard, que je crois vous aimiez bien, le disait. Bachelard lui-même était très poétique, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Oui, absolument.
Donc, il cumulait les deux, lui.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une intuition poétique qui pallie, précisément, cette imprécision terrifiante, finalement? Parce que si vous dites aux gens qu'ils sont dans un système aléatoire, dans un système... peut-être la peur vient-elle de là? Alors, on les pose dans un monde sans signes, comme disait l'autre, comme disait Sartre. Sans signes, sans explications scientifiques péremptoires, précisément. Comme il y en avait, c'est plus rassurant, les explications scientifiques péremptoires. Est-ce que la philosophie n'a pas été déconnectée, tout d'un coup, de tout ce qui en faisait le suc, c'est-à-dire de l'interrogation poétique, de l'interrogation artistique, vous qui êtes fils d'artiste? Est-ce qu'il n'y a pas eu une scission? Est-ce que le poisson ne pourrit pas par la tête dans notre civilisation? Est-ce que nous ne pensons pas trop en déconnectant du reste? Est-ce que ce n'est pas une tentation?
Pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est que la vision poétique m'a toujours attiré. J'ai toujours eu l'impression que chez les très grands, les bons poètes, il y avait une espèce de vérité supérieure. Mais en même temps, je me demandais, est-ce que je ne suis pas en train de m'illusionner, de croire au Père Noël? Parce que ça me plaît, je décide que c'est vrai. Donc, dès 18 ans, je me suis posé la question, cette question-là que je viens de vous dire, ces choses qui me paraissent convaincante, belle, parce que belle, est-ce que ce n'est pas tout simplement de l'illusion? Est-ce que, en fait, tout ne se ramène pas à ce que disent Renan, Taine, etc., et tous ces gens-là, à savoir, ou Fangeux actuellement, à savoir que tout se ramène finalement à des interactions entre petits objets? Et ça m'a taraudé, cette question-là. Et si la réponse que j'avais trouvée dans la science avait été « oui, tout se ramène effectivement à des interactions entre petits objets sans signification ni valeur particulière », j'aurais été obligé de dire « oui, j'aurais dit oui, effectivement, les valeurs se ramènent à ça ». Mais ce que j'ai constaté après un travail sérieux, et il ne s'agit pas de fantaisie, c'est que non, tel n'est pas le cas. La réalité n'est certainement pas descriptible comme ça. Ça se démontre. Et il semble vraisemblable qu'elle n'est pas vraiment accessible discursivement. Ce qui laisse la possibilité, si on est porté à ça, de penser que peut-être les beaux poèmes, les belles musiques, nous donnent quelque accès à cette réalité.
Est-ce que vous avez
Ce n'est pas une démonstration oui. scientifique, bien entendu, vous comprenez ça. Mais on a levé un blocage. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est qu'il se trouve que ce blocage qui s'est produit il y a, disons, 50 ou 100 ans, et qui est encore dans la tête de nos contemporains, n'a plus lieu d'être.
Est-ce que vous aviez un poème que vous aimiez beaucoup, qui exprimait ce que vous dites ?
Beaucoup de poèmes que j'aime, oui.
Est-ce qu'il vous en vient un ?
Mon poète préféré, c'est peut-être Baudelaire, mais dans les poètes du XVIe siècle, les petits poètes du XVIe siècle, il y a beaucoup de jolies choses, de choses qui relient, mais relient maintenant, à l'heure actuelle, est un qualificatif qu'on ne devrait pas employer parce que ça semble vouloir dire que c'est sans importance. Mais parmi ces poètes-là aussi, il y a des choses qui me paraissent avoir des résonances profondes.
Alors, vous avez dit, ce sera ma dernière question, mais vous avez dit un jour que votre vocation était tout enfant déjà d'être créateur en quelque domaine que ce fût. Dans quel domaine aujourd'hui diriez-vous que vous avez réalisé ce rêve ?
En philosophie. tout simplement.
En philosophie.
Dans la mesure où on peut dire qu'on a réalisé son rêve. Vous savez, il est impossible, en fait, de dire qu'on a réalisé son rêve. C'est affreusement prétentieux de
penser
une chose pareille.
On n'a pas réalisé son rêve, si...
On espère avoir réalisé son rêve, mais on ne peut jamais en être vraiment sûr, mais on a le droit de l'espérer. J'espère avoir un petit peu contribué, à mon niveau tout à fait modeste, avoir un petit peu contribué à faire connaître ce que je viens de vous dire là, et ce que je viens de vous dire là me paraît être quelque chose philosophiquement significatif.
Merci Bernard d'Espagna. C'était donc À Biver avec Bernard d'Espagna par Elisabeth Antebi.